Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'autre jour, il y avait Kev Adams à l'émission, il était à la fois très con et très mal habillé.
Cet épisode de Chiffon est réalisé en partenariat avec Emma et Chloé. Cette petite marque propose des bijoux à prix juste et doux qui sont dessinés dans son atelier parisien. En cette veille de Noël, Emma et Chloé vous présentent sa box bijoux qui vous permet de recevoir chaque mois un bijou original dessiné par une créatrice française, que ce soit des colliers, des bagues ou encore des boucles d'oreilles. Grâce au code Chiffon, recevez votre première box bijoux pour 10 euros au lieu de 25 et le tout pour une valeur comprise entre 40 et 100 euros. Et c'est aussi un bon moyen de soutenir l'artisanat français. Allez, place à notre invité du jour.
J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
Je me suis battu depuis 2 ans pour ces robes parce que je trouve ça indécent.
Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse.
C'est affreux tout ça.
Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon,
sape, chiffon,
chiffon, c'est parti. Pour finir cette année 2018 en beauté, j'ai choisi un invité qui est déjà passé dans Chiffon. Et quel passage! On y avait appris une multitude de choses sur lui, et au bout d'une heure d'interview, vous étiez, chères auditrices et auditeurs, un peu restés sur votre faim. En effet, le 29 septembre 2017, Marc Boger nous disait à ce micro « J'aime m'habiller vieux, j'aime le velours et le Shetland, les costumes napolitains. Quand j'étais petit, je ne voulais pas sortir avec ma mère quand je la trouvais mal habillée. » Il nous avait aussi fait part de sa wishlist de fringues et nous avait expliqué qu'il calculait la taille de ses ourlets de pantalons avec une formule mathématique. Bonjour Marc.
Bonjour.
As-tu conscience que tu as marqué l'histoire de Chiffon à tout jamais et que tu as complexé un max de mecs qui ont peur de passer devant mon micro? Après toi, il y a eu Ariel Wiesman, Joseph Ghosn, Marc Lévy, Sébastien Kopp, Youssouf Fofana. Et tous m'ont dit qu'ils n'auraient rien à dire à côté de toi. Enfin, dès que j'invite un mec, en fait, à ce micro, qu'est-ce qu'il fait? Il va écouter ton épisode. Donc, comme tu places la barre très très haute, je suis dans la merde. Parce que plus personne ne veut passer maintenant.
Ah, désolé, mais
comment je peux faire pour argumenter, alors, pour dire aux hommes, venez quand même
Mais faut relativiser. Hein. J'ai dit 2-3 bêtises, sans doute, et 2-3 choses pas très intéressantes. Mais je trouve ça bien de m'inviter des garçons de plus en plus. J'espère que ça reflète un goût du masculin pour le vêtement grandissant.
Ah vraiment? Le temps passe vite, ça fait déjà 1 an et demi. Qu'est-ce qui s'est passé en 1 an et demi?
Ah ouais, en 1 an et demi, ma foi, pas mal de choses. Les enfants ont grandi, les projets se sont multipliés, un magazine est sorti.
Oui, la publication d'étiquette, on va en reparler un peu plus tard.
L'étiquette. Et puis, ma foi, j'ai acheté des fringues aussi, encore un peu. Donc voilà, la vie telle qu'on peut la concevoir.
Et toujours sur TMC aux côtés d'Yann Barthès, donc au
Ouais, voilà. Sinon, les activités n'ont pas trop changé. Enfin, elles se sont additionnées, mais je
Society.
Continue à faire les choses. Society, le M, TMC, Holiday, pour la plupart des choses.
Bon, avant tout, j'aimerais, comme c'est la fin de l'année, c'est un épisode un peu exceptionnel, débriefer sur ce 29 septembre 2017. J'ai réécouté ton passage dans Chiffon, j'ai beaucoup
Quel
ri.
Quel courage.
J'ai beaucoup ri, et je voulais prendre des nouvelles de ton entourage, dont tu nous avais joyeusement parlé dans cet épisode.
Ah oui.
Bon, as-tu fait écouter l'épisode à ta maman?
Alors non, c'est possible qu'elle l'ait écouté, parce que ma cousine l'a écouté, sans savoir que je l'avais fait, enfin elle est tombée un peu par hasard dessus, elle m'en a parlé, et ma cousine et ma mère sont très proches, alors peut-être qu'elles s'en sont parlées.
Je rappelle aux éditeurs qui n'auraient pas écouté l'épisode, donc petit garçon, tu refusais de sortir avec elle si sa tenue ne convenait pas. Mais tu lui en as reparlé ou pas ?
Non, on n'en a pas reparlé, mais c'est le sujet est de vestimentaire est un vrai sujet. À chaque fois qu'elle me voit à la télé, elle me fait un petit débrief. À chaque fois qu'on se croise, on en parle. Enfin, elle a un vrai goût pour ça. Et c'est régulièrement un sujet, pas d'accroche, mais enfin de discussion. Le vêtement, ouais, avec ma mère.
Ouais, parce que tu disais l'autre fois que c'était toi qui regardais attentivement, donc maintenant c'est elle qui te regarde à la télé.
Ouais, elle les regarde aussi. Elle me dit des trucs. La chemise blanche avec la cravate noire, le costume anthracite, on est sûr, hein, ça manque pas un peu de luminosité. Enfin, elle m'envoie des messages comme ça, c'est rigolo.
Ah, bah ça y est, mais alors je commence à comprendre maintenant.
Ouais, ça vient de
ta maman.
Ça vient de loin.
En un an et demi. Ouais. Non, tu nous avais parlé de ton grand-père dans l'autre épisode.
Ouais, mon arrière-grand-père qui était tailleur du côté de. Dans le Maine-et-Loire.
Bon, et ta compagne ?
Ma compagne va bien.
Parce que tu as quand même reconnu un acte méprisable de ne pas pouvoir sortir en sa compagnie à cause de sa tenue.
Ah ouais, ça m'est arrivé. Ouais,
est-ce que tu l'as refait en 2018 ?
Non, alors je sais pas si c'est elle qui s'est perfectionnée stylistiquement ou moi qui suis devenu moins con, mais je crois pas que ça soit arrivé récemment. Non, ce truc, je me souviens très bien, c'était une soirée et j'avais refusé de sortir avec elle si elle avait gardé cette tenue. Putain, c'est vraiment ridicule.
Non, mais tu nous as dit qu'elle s'était changée.
Elle s'était changée, ouais.
Est-ce que tu as réussi à convaincre ton fils de porter des polos et non des t-shirts clairs ?
Ah non, alors là, non, c'est un grand échec avec mon fils.
Qui a 12 ans maintenant.
Qui a 12 ans et qui traverse, une période de comment on dit quand on est de turbulence stylistique en tout cas. Je crois que je vais devoir lâcher prise pendant 5 ans là, le laisser faire son adolescence parce que il ne m'écoute pas du tout.
Pourquoi il sort en jogging
Il sort en jogging, en basket, enfin ça dégouline un peu de partout. Et surtout, je crois qu'il fait un malin plaisir à ne pas m'écouter. Là, en revanche, je trouve beaucoup de réconfort chez ma fille de 7 ans.
Ah, tu nous en avais parlé, tu m'as devancé en fait.
Ouais, qui...
Alors elle continue sur sa lancée stylistique.
Ouais, elle adore ça, elle m'en parle, elle veut aller voir, elle veut comprendre pourquoi je fais ça, elle prend des pauses. Alors des fois, c'est un peu too much, mais elle est assez drôle. Elle se fait un look et elle me demande de lui faire une photo et après elle aime bien regarder la photo.
Donc elle a toujours pas créé son blog. Tu nous as dit.
Elle a son compte Instagram maintenant.
À 7 ans.
À 7 ans avec des photos d'elle, ouais, c'est assez drôle, mais c'est en privé. Je cadre un
bien
peu
sûr.
Le truc. Mais elle aime beaucoup ça, ouais.
Les chats ne font pas des chiens.
Non, exactement.
Est-ce que tu as effacé tes tatouages? C'était au programme.
Pas encore, mais l'idée et la motivation grandit en moi. Et j'ai même récupéré une adresse récemment à laquelle je compte me rendre dans les mois qui viennent. Mais je suis capable de repousser ce genre de choses assez longtemps.
Bon, ce sera les bonnes résolutions 2019.
Ouais, exactement.
Quand je t'ai interviewé donc en septembre 2017, est-ce que tu te souviens comment t'étais habillé ?
Ouais, je pense que j'avais un polo navy avec. En maille et un chino
beige,
un peu large. Ouais.
Sans ourlet.
Il devait être coupé en bas. Je crois que depuis, je l'ai fait retoucher parce que je suis revenu de ce truc de couper les chinos. Et je crois que je l'ai fait reprendre pour qu'il y ait un vrai ourlet. Pas un revers, mais un vrai ourlet. C'est parce que j'avais coupé, mais j'avais gardé le bout, la bande.
Attends, t'as gardé la bande et tu l'as fait ?
Ouais, en fait, j'avais coupé... J'avais coupé au ciseau parce que je trouvais que c'était c'est un truc très populaire. Enfin, c'est un truc il y a plein d'images de mecs qui se coupent l'ourlet au ciseau. Ouais, c'est la façon la plus simple de se faire un ourlet. Donc j'avais coupé le pantalon au ciseau et puis j'avais gardé la bande parce que je sais que parfois mes névroses varient. Et donc j'ai fait remettre assez savamment
la bande de tailleur.
Ouais, de remettre.
Ça
se voit pas parce qu'il y a un jeu habile. Ouais, de couture, ça se voit pas.
Peux-tu décrire ta tenue du jour ?
Voilà, c'est le matin et puis c'est à la maison, du coup c'est pas très élaboré. Mais donc j'ai un jean un 501 vintage et puis un sweatshirt Oxford, enfin de l'université d'Oxford, vintage aussi, de couleur rouge que j'aime bien, dans lequel je me sens assez bien. Mais c'est du coup très décontracté.
L'année dernière, tu étais dans ta période américaine, et en ce moment
Oxford, plutôt anglais, mais enfin, non, je suis toujours assez americana, militaire, workwear, ou alors très tailoring, très costume. Je me radicalise un peu, j'ai l'impression d'avoir effacé un peu une zone qu'on pourrait appeler le casual chic, qui m'intéresse moins, qui est une espèce de mix entre le jean, le pull, le cachemire, toute cette zone-là, qui soit ni très décontractée ni très chic. J'ai l'impression de l'avoir un peu effacé de ma palette vestimentaire. Je suis assez radicalisé, soit très décontracté, vraiment Americana, sportswear, workwear, soit au contraire très tailoring, donc très habillé avec de l'épaule et une taille haute et des souliers, quoi.
Mais toujours période napolitaine ou...
Non, plutôt, c'est marrant parce que j'ai évolué. On évolue aussi en faisant des rencontres. C'est ça que j'aime bien avec le vêtement. C'est que moi, je suis très perméable aux gens que j'aime bien, à leur savoir, à leur connaissance. Du coup, j'ai rencontré deux, trois garçons, Gauthier avec qui on a fait l'étiquette, Nicolas qui fait des costumes. Et du coup, je suis passé sur une épaule beaucoup plus structurée.
Parce que l'épaule napolitaine. Florentine, c'est ça ?
Ouais, milanaise.
Milanaise.
Milanaise. Mais pour le coup, c'est une épaule assez française finalement parce qu'elle est, taillée, elle est en manchée très haute, elle a de l'épaulette, elle est assez stricte, elle est presque militaire, quoi. Et donc, je me suis fait faire plusieurs costumes récemment un peu dans cette gamme. Et effectivement, en me rapprochant de quelque chose de plus français, de plus,
Donc fini Gabin, l'Italie.
Ventura, ouais, fini la souplesse finalement. Mais après on est en hiver, alors évidemment il y a plus de structure, mais la souplesse italienne me parle un peu moins, mais ça reviendra.
Ça prouve qu'on peut changer avec le temps.
Ouais, on peut changer. Je crois que on ne cesse de progresser en élégance si on s'y intéresse et si on reste ouvert. Moi, je suis pas du tout dogmatique. Enfin, ça m'arrive de donner des conseils, d'imposer des règles. Ça m'arrive même souvent, mais enfin, j'ai une distance par rapport à ça. Et je crois que il faut pour bien s'habiller, faut être assez curieux, faut rencontrer des gens et tiens, se dire ah ça c'est pas mal et puis en discuter. Enfin voilà, moi j'aime bien cette idée que ça progresse.
Alors de mémoire, tu as dit que jamais de la vie tu ne porterais de skinny.
Ouais, ça par contre, je crois que ce serait.
Tu n'as toujours pas changé d'avis.
Non, j'ai pas changé d'avis. J'ai pas le corps pour et j'ai pas le goût pour. Quoique, il y a des images de rêves super, des Ramones lookés en jean hyper étroit. Ça peut avoir un sens, mais pour moi, je crois que je ne m'y mettrai jamais.
Je crois que ce qui m'a le plus marqué l'épisode précédent, c'est le nombre de fois où tu as répété l'expression névrose. Ah névrose ouais. Vestimentaire. À un moment, j'ai arrêté de compter. J'étais à 12.
Je viens de le faire, là, je crois.
Oui, toujours aussi.
Bah ouais, je sais pas si c'est de la lucidité ou quelque chose d'autre. Mais ouais, j'ai parfois l'impression que effectivement. Ça c'est assez profond, assez ça m'habite quoi et assez sincère
et ah oui tu l'assumes complètement
ouais
en fait, hein.
Je l'assume et c'est pas une pause quoi, c'est à dire que ça m'intéresse vraiment, je pourrais pas consacrer autant de temps que ça au sujet si vraiment c'était pas un truc qui m'habitait et c'est de l'ordre de la névrose quand je me réveille en me disant putain faut que je regarde un tissu quand je pense à 6 mois des trucs que je veux faire, acheter, trouver, quand je fais des listes, je me dis, ouais, c'est forcément un peu névrotique, quoi.
Là, t'as fait une wishlist sur ton téléphone?
Ouais, j'ai des listes. Alors, je me projette déjà dans l'été, là.
Ah.
Parce que, comme je fais faire pas mal de costumes, ça prend un peu de temps. Et ça, du coup, faut un peu se projeter. Trouver les tissus, faut aller les faire, faut économiser un peu pour se les payer. Du coup, faut se projeter.
Qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël ?
Alors au Père Noël, j'ai une nouvelle. Il y a un truc que je connais assez peu, c'est le parfum. Et j'ai un copain qui s'appelle Basile et à qui on a demandé pour le numéro 2 de l'étiquette de faire une liste de parfums iconiques et tout ça. Donc c'est un truc qui m'intéresse et pour le coup je me suis jamais parfumé et j'aimerais bien commencer par un vrai parfum, un bon parfum, un parfum juste.
Qu'est-ce que t'appelles un parfum juste ?
Voilà, ce que j'appelle un parfum, mais ça c'est comme pour les vêtements, c'est un parfum dont le prix est déconnecté de la valeur marketing. Je me payais un parfum pour la qualité de son parfum, son odeur évidemment, son histoire, et pas payer l'égérie qui représente le mannequin dans une pub à plusieurs millions, ça je m'en fous, je veux un vrai parfum.
C'est pas un parfum qu'on verra sur tout le monde, qu'on sentira.
Ouais, c'est sans doute pas un parfum qu'on verra à la télé au moment de Noël dans les pubs.
Ou alors tu te fais faire du sur-mesure.
En parfum?
Mmh.
Ouais, on il paraît qu'on peut aussi. Ouais, ouais mais je suis pas. C'est comme, ça serait comme commencer à un costume par du sur-mesure. Ce serait compliqué. Je pense qu'il faut une éducation. Je vais commencer par quelque chose de très simple, voir si je le porte, si j'aime le mettre, et puis après progresser. Je pense qu'il faut aller pas à pas. Et je me sentirais pas de faire un parfum sur mesure. C'est comme un premier costume serait un costume sur mesure. Ce serait compliqué les repères. Enfin, ça s'apprend, hein, à porter un costume, à porter un parfum, je pense.
À quel âge t'as fait faire ton premier costume sur mesure?
Il y a à peu près une dizaine d'années. Donc je devais avoir 28 ans. Mais j'en avais acheté avant, en prêt-à-porter. Mais je crois que ouais, le premier, c'était... il y a une petite dizaine d'années, chez un garçon qui débutait qui s'appelle Julien. Et c'était assez troublant parce qu'effectivement, on n'est pas habitué à décider à ce point-là. Mmh. Et décider, c'est pas simple. Enfin, décider, c'est super, mais il faut prendre les bonnes décisions.
Alors, tu reconnais tes névroses, donc c'est peut-être pour ça que tu as créé le magazine L'Étiquette, le guide de l'élégance masculine.
Ouais, ouais, c'est évidemment quelque chose qui m'est apparu comme assez, comment dire, assez évident à un moment donné, parce que je me suis dit que il y avait énormément de choses à raconter, qu'il y avait des gens qui semblaient être réceptifs à ça, et qu'on trouvait pas en kiosque à l'heure actuelle l'équivalent de quelque chose qu'on pourrait lire, avoir envie de lire.
Ouais, parce que tu dis que c'est un magazine de mode, mais qui ne parle pas de mode.
Ouais. Alors ce truc de mode, ce mot mode, moi m'énerve un peu. Enfin,
tu n'aimes pas la mode. Tu l'avais dit déjà dans
l'épisode
précédent.
Ouais, je ne comprends pas. Pour moi, la mode, c'est une industrie. Point barre. Et l'industrie ne m'intéresse pas. Je suis pas un homme de chiffres. Je suis pas un homme d'entreprise. Et je suis pas un homme. Enfin voilà. Le marketing, de façon générale, ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, ce que j'aime, c'est le vêtement. Le vêtement, comme on le porte, quoi. Le vêtement. Sans marque, mais avec marque, peu importe le vêtement tel qu'on le porte, c'est ça qui m'intéresse dans toute sa dimension. Et il n'y avait pas de il n'y a pas de magazine qui parle de vêtements, à mon sens, avec précision, avec passion, et avec une forme d'empathie qui fait que finalement, on n'impose pas aux garçons des normes, des images. Moi, par exemple, dans l'étiquette, toutes les images des séries mode sont justifiées, sont expliquées.
J'allais te poser la question.
Parce que je pense que les garçons ont besoin de comprendre, les femmes aussi sans doute, ont besoin qu'on leur explique, pas qu'on leur impose des images. Et ça me manquait dans la presse.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de photos, en fait. Hein.
Oui, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup d'images de mode, d'une certaine façon, d'images de style, parce que c'est d'abord un guide, c'est d'abord comment s'habiller. Et ce que j'aime, moi, c'est que le comment s'habiller et pourquoi. C'est un truc qui résume assez bien notre démarche, je crois. C'est on vous montre comment s'habiller, comment on considère qu'il est juste de s'habiller, et on vous explique pourquoi. Pourquoi un trench, vous pouvez relever le col, pourquoi un jean, vous pouvez le porter qui dégoulinant sur la chaussure ou pas, pourquoi une cravate en maille avec un col button-down. Nous, on aime bien justifier. Et je pense que comprendre les vêtements, leur origine, leur fonction intrinsèque permet de mieux s'habiller au final. C'est ça la thèse du magazine. C'est-à-dire, on va vous expliquer, on va vous montrer, on va vous expliquer. Et au final, votre conscience, votre culture du vêtement va faire que vous vous habillerez plus juste. Moi, j'aime s'habiller en conscience, être conscient de ce qu'on porte.
Ouais, j'aime bien, dans l'édito, tu écris « Avoir du style, de l'allure ou de l'élégance est un processus long qui demande de s'intéresser aux vêtements en lui-même et de poser une foule de questions ». C'est ça,
ouais,
le message
ça.
Que tu veux passer.
Ouais,
fait.
C'est ça, c'est de s'interroger, de comprendre pourquoi il y a des poches à tel endroit, pourquoi c'est telle matière, pourquoi c'est cher, pourquoi c'est pas cher. Mais ça veut pas dire forcément exclure totalement la consommation de mode au sens objet de luxe. Ça veut dire comprendre.
Mais parce que ça peut faire peur aux gens, en fait. Certaines personnes peuvent se dire, oh là là, ça va être hyper cher, c'est pas pour moi.
Non, au contraire. Alors, au contraire. Mais je me suis un peu radicalisé, quasi politiquement.
Oula.
Ouais, parce que, en fait, on a pu me dire, en regardant les looks, il y a beaucoup de barbours, il y a des Weston, il y a des Church, des vêtements assez chers. Mm. Mais au-delà de ça, des vêtements qu'on catégorise de droite. souvent. Et moi, j'ai la conviction inverse. En fait, j'ai la conviction que ces vêtements-là, qui sont des vêtements chers parce qu'ils ont été longs à fabriquer, parce qu'il y a un savoir-faire, parce qu'il y a des matières. Ce sont des vêtements plutôt de gauche, intrinsèquement, parce qu'ils vont durer longtemps, parce qu'on va se les passer, parce qu'ils vont se patiner, parce qu'ils vont vieillir et finir par être hyper rentables, vu le nombre de fois qu'on va les porter. À l'inverse, la mode est l'art de produire et de vendre des vêtements peu chers, qu'on est capable de vendre très cher, dont les gens auront marre dans 6 mois. Ça, c'est ce que je rejette. C'est le fait de nous faire acheter bêtement des vêtements moches dont on aura marre dans 6 mois. Et des vêtements très chers.
C'est très en vogue en ce moment, toutes ces nouvelles marques qui se créent.
Mais quasi les marques affichent et assument et revendiquent la laideur. Et moi, ça m'étonne et ça me rend un peu fou. C'est-à-dire que...
T'as un exemple ?
Bon, toutes les Ugly Sneakers, par exemple. On prend une basket, on affiche qu'elle est moche, on revendique, on repousse la surenchère de la laideur au maximum. Et on l'impose aux gens. Pourquoi on l'impose aux gens ? Parce que si on montre cette basket aux gens, sur fond blanc, sans marque, déconnecté de tout signaux, de tout marketing, de tout mouvement de pub derrière, les gens intrinsèquement vont dire c'est moche. Simplement, cette chaussure-là, on va la faire porter par Kanye West, par Kim Kardashian. On va la placarder dans toutes les rues. On va la mettre dans tous les magazines. On va acheter des posts Instagram. Finalement, on va façonner le goût des gens par la puissance financière. Et c'est typiquement ce que je rejette. Mais c'est la même chose avec les majors en musique. C'est-à-dire, on prend un morceau à la con. On l'écoute la première fois, on le trouve pas bien. On l'écoute la 500e fois parce qu'on l'entend à la radio passivement. On va finir par le comprendre et presque par l'aimer. Et la façon dont la... Moi, je dis pas qu'il ne faut pas acheter des Ugly Sneakers. Je dis, si vous voulez le faire, soyez conscient que c'est moche. Gardez en tête que c'est moche. Jouez le jeu. On a le droit de craquer pour un truc de mode parce qu'on a envie d'une casquette Balenciaga. Sachez-le, mais sachez que d'une certaine façon, votre casquette Balenciaga que vous payez 200€, elle a coûté 50 centimes à faire. Parce que c'est ça, hein. Les marges sur ces produits-là, elles sont dingues. C'est-à-dire, on fait quelque chose de très peu cher qu'on vend très cher. Et pourquoi pas? Mais faut qu'on le sache. Moi, je suis pour que les gens le sachent et pour leur dire. Et pour, une fois qu'on sait ça, on fait le tri entre ce qui est cher, pas cher, ce qui est honnête en termes de prix, ce qui est laid, pas laid, chacun décide, mais que les gens sachent.
As-tu mesuré tous les ourlets des tenues de mannequins, mannequins ?
Ouais, bah avec Gauthier Borsarello, avec qui on fait le magazine, on est quand même des sacrés ayatollahs. Du coup, on avait préparé toutes les tenues à l'avance, la veille. On avait, avec Loïc aussi, styliste, on avait vraiment validé les tenues. Enfin, ça a été très long comme processus de création. Et puis sur place, ouais, on a été là à retoucher sans arrêt les ourlets nous-mêmes. On repassait, il y en a un qui passait, hop, l'un qui allait remettre derrière, puis un autre qui retouchait l'ourlet. On était un peu pénible.
Tout a été checké, en fait.
Tout a été checké. Il y a un col sur une page avec un costume qui passe pas sous le revers, qui reste comme un de mes... Parce que le col de la chemise doit finir... La pointe du col de la chemise doit finir sous le revers de la veste. Et c'est raté à une page, il manque 1 ou 2 millimètres. J'avais demandé à ce qu'on le retouche en Photoshop et puis on n'a pas dû le faire. Et du coup, ça m'a fait tiquer. Mais globalement, je m'y retrouve.
Mais c'est hyper courageux de lancer un magazine papier à l'ère où les réseaux sociaux sont légion.
Ouais, sans doute. Moi, je viens de là. Du coup, c'est la démarche naturelle. Je comprends la mécanique de construire un magazine papier, qui on va voir, quel savoir-faire. Du coup, ça m'était assez naturel. Et globalement, j'essaye de faire ce que j'ai envie plutôt que ce qui serait potentiellement rentable. Je me dis que si je fais un truc dont j'ai envie, quelques personnes finiront par le comprendre. Et ça vachement, le numéro a vachement bien marché en kiosque, en vente, en retour. Pour ça, parce que y a pas une démarche hyper marketing derrière un truc comme ça. Derrière un magazine comme L'Étiquette, c'est une bande de 10 mecs, si on doit résumer, et puis des filles aussi, qui se disent, qui font un truc qui leur botte, quoi, qu'ils ont vraiment envie de faire depuis très longtemps, et qui unissent leurs forces, en se marrant, font un truc que finalement les gens finissent par s'approprier.
Et à quand une version féminine ?
Alors,
ça m'est revenu, mais on m'a posé 50 fois la question.
On me demande énormément. Ouais, c'est un truc. Alors, il y a plusieurs réponses. Je pense que ce serait un marché. Je pense que ce serait un quelque chose de potentiellement qui pourrait marcher, qui pourrait fonctionner. Après, est-ce qu'on a envie de le faire? Ça, c'est la vraie question. Moi, je ne pense pas avoir l'expertise pour le faire, pas l'expertise suffisante, parce que j'ai jamais porté une robe, par exemple, simplement. Ouais. Et je pense que le vêtement, il faut en parler très intimement. Et il faut, c'est tellement puissant, c'est quand même en contact permanent avec le corps qu'il faut savoir de quoi on parle. Et donc je pense que si on le faisait un jour, peut-être, pourquoi pas, il faudrait que ce soit une fille qui s'en occupe. Alors moi, je veux bien aider, évidemment, mais je pense que ce serait une fille qui devrait avoir les manettes
du truc. Parce que moi, j'ai dû faire 130, 150, ouais, même 150 interviews dans Chiffon, ouais. Et les femmes le disent, toutes les femmes, on manque de basiques, on manque de repères.
Ouais. De choses simples,
oui.
Mais de choses...
Trouver un bon t-shirt blanc, ce dont tu nous avais parlé dans l'épisode 1, c'est hyper difficile.
Ouais, je veux bien le croire, ouais, parce qu'effectivement, c'est pas de ça dont parlent les magazines de mode, parce que les magazines de mode parlent des marques de mode qui sont annonceurs dans le magazine. Et ouais, effectivement, je pense qu'il y a, ça pourrait... Moi, je m'étonne que, par exemple, sur mon Instagram, il y a des statistiques, j'avais regardé une fois, je suis plus suivi par des femmes que par des hommes. Alors que je parle principalement d'hommes.
Ça m'étonne pas.
Et le magazine Étiquette a été beaucoup acheté par des femmes. Je pense qu'un tiers des achats, c'est des femmes.
Bon, il faut dire aussi que les hommes sont très, très mignons dedans. Le casting est parfait.
Ouais. Moi, j'aime bien les garçons du début, notamment, qui sont des copains.
Dans la tenue d'eux.
Ouais, hein. c'est des copains.
J'allais te demander comment tu les as sélectionnés.
Vraiment, cercle d'amis, amis de Gauthier, amis de...
Ils sont tous hyper lookés, tes amis.
Ouais, ouais, bah on a choisi des garçons lookés, parce que pour que ça ait un petit intérêt stylistique pour le magazine. Mais ouais, on a beaucoup de garçons assez élégants par... Enfin, quand même, il y a une communauté d'esprit autour du vêtement. Et on se retrouve effectivement... Et c'est marrant parce que être élégant, enfin être looké, stylé, je trouve que ça marche très bien... quand on est seul, en fait, quand on marche dans la rue et qu'on a un look et qu'on a travaillé, qu'il y a une forme d'élégance, je trouve qu'il y a une forme de distinction à marcher comme ça dans la rue, et que ça, c'est hyper intéressant. En revanche, quand on se retrouve avec tous nos potes, qu'on est tous lookés, mais un peu pareil, mais on a l'air un peu grotesque. Et c'est
pourquoi
le problème de sortir. Parce que sortir en bande et que finalement tout le monde a le. Putain, t'as le même sweat que moi, t'as la même chaussure. Enfin, il y a un côté uniforme réduit sur un groupe de 5 mecs. L'autre fois, on s'était réunis pour un truc de l'étiquette, pour une réunion de l'étiquette, dans un café. Et on est arrivé, on avait tous les trois, avec Gauthier, Loïc. Enfin, on était 4-5 et on avait tous, mais. À une exception près, je crois, un polo de rugby qu'on avait tous acheté au même endroit. Et là, on était un peu cons, on s'est retrouvés un peu cons. Mais ça nous a fait marrer. Et effectivement, mes potes sont... Enfin, les garçons qui sont dans le magazine et les mecs avec qui je parle de vêtements, ouais, sont assez lookés et assez... Et on a des proches, des centres d'amitié assez proches. Ouais. Enfin, des centres d'intérêt.
Tu parlais d'Instagram tout à l'heure. Quel est ton rapport avec ce réseau social?
Je suis assez consommateur au sens où je regarde pas mal. J'ai du mal à produire. Enfin, je produis assez peu de choses. Je fais des
j'aime bien tes listes.
Ouais, des listes, des graphiques. On va développer l'étiquette sur ce plan-là. Je mets jamais de documents perso, enfin de choses perso. J'en avais mis un truc, une photo de Léonie, ma petite fille, et puis je l'ai enlevée. Moi, j'ai un regard de journaliste sur Instagram, c'est-à-dire que je veux produire du contenu pour Instagram, et je considère pas que ma vie soit un contenu. Ma vie, c'est ma vie. Perso, c'est perso. Et par contre, produire du contenu, utiliser Instagram comme un média, ça m'intéresse. Parler du vêtement, parce que c'est quand même hyper direct. Il y a beaucoup de gens qui regardent. Quand je mets un graphique. Et qu'il y a 10 000 personnes qui likent, mais 2000, 3000 personnes qui likent. Je pense que ces personnes-là ont pris le temps de lire, qu'elles ont regardé en détail, qu'elles ont aimé, qu'elles ont compris. Cette démarche-là, ce qui est une démarche purement journalistique de création de contenu, elle m'intéresse. Tout le reste, les gens qui se font des bisous, qui se ma chérie, qui se mettent leur vie en scène, je trouve que c'est de la merde. Pour dire les choses.
Tu as choisi Pierre Richard pour ce premier numéro.
Ouais,
il incarne le chic pour toi?
Ouais, oui et non. On avait un concept qui était d'aller voir une personne et lui faire raconter sa vie par le vêtement. Parce que je pense que c'est très intime et que plutôt que de dire à quelqu'un « tu t'entendais bien avec ton père quand t'étais ado », de lui dire « est-ce que tu t'habillais comme ton père ou contre ton père ?» potentiellement peut arriver une réponse plus profonde.
C'est un peu la démarche de Chiffon.
Ouais, sans doute qu'on se retrouve à ce niveau-là. Et je pense qu'on peut faire dire plein de choses aux gens sur eux-mêmes par le vêtement. Donc c'était la démarche, aller prendre quelqu'un d'un peu établi et de lui faire raconter sa vie par le vêtement. Donc il y en avait plein de noms qu'on tournait, on a fait des tentatives, etc. Et avec Pierre Richard, il y a une espèce de consensus parce que il n'est pas élégant, mais il est chic. Je veux dire par là que c'est pas un grand dandy. Il fait pas faire des costumes en mesure toutes les deux semaines. Mais il porte bien, il porte de façon très personnelle, et aussi il a un truc très français, et on voulait que le numéro ait une connotation assez française pour un premier numéro, on pensait que c'était important qu'on sente d'où on parle, et aussi il y a un truc avec Pierre Richard qui est extraordinaire, c'est que les gens l'aiment quoi. Et moi les gens étaient surpris que ce soit lui.
Il y a
lui.
Un vrai capital sympathie ah ouais, autour de lui et l'article est très bon.
Ouais, je trouve qu'il a été les lecteurs diront et je te remercie si tu le penses. Il a été assez chouette, assez généreux, il raconte des trucs très intimes.
Il parle de son père.
De son père, de sa famille, de effectivement de la rébellion par rapport à un père très riche, très raide dans l'habillement et lui qui tend à diverger de ça du coup. Mais quand les gens voyaient que c'était Pierre Richard, ils disaient, Pierre Richard, étonné. Et hyper heureux de retrouver ce gars-là.
Oui, parce qu'en plus, l'étiquette, ça peut avoir un côté assez élitiste, bobo chic parisien.
On peut penser ça, ouais.
Et dedans, tu mets qui ? Pierre Richard.
Ouais, on tenait, plutôt que de mettre un mec très...
Sortir de l'entre-soi parisien. Ouais, sorti de l'entre-soi parisien, et ça, j'ai trouvé ça fort.
Sortir un peu, ouais, ne pas... perpétuer toutes les figures un peu chic, je sais pas, un Pierre Ninet, enfin j'ai rien contre Pierre Ninet ou les acteurs, enfin quelqu'un qui a une charpente, quelqu'un de pas très jeune aussi, quelqu'un qui déclenche la sympathie. Et puis aussi il y avait un truc quand même dans la sélection de avec qui on faisait cette interview. Je pense que cette interview par le vêtement marche sur des personnes qui sont un peu irréprochables. Enfin, je veux dire par là qu'à un moment donné, on a pensé à Depardieu, on a pensé à Houellebecq, qui ont des gens qui ont dit. Je pense que Houellebecq a un super discours sur le vêtement. Mais moi, si j'avais Houellebecq en face de moi, je veux pouvoir lui parler de vêtements, certes, mais je veux pouvoir lui parler d'islam, de politique, de société. Depardieu, je veux pouvoir lui parler de Russie, de Corée du Nord, de harcèlement, d'Alger, enfin, de plein de choses. Qui feront passer finalement le vêtement au second plan, alors que Pierre Richard mène sa carrière avec légèreté, insouciance et élégance, et que du coup lui parler de vêtements est assez cohérent et ne nous frustre pas. On se dit pas putain, on aurait dû quand même lui parler de ses choix politiques. Non, Pierre Richard.
On les connaît pas d'ailleurs.
On les connaît pas. On soupçonne qu'il soit bon, mais on les connaît pas. Et c'est voilà, ça rendait hyper naturel finalement d'aller le voir et de lui parler de fringues.
Qui t'aimerais avoir?
Qui j'aimerais avoir? Sur le 2, on se pose beaucoup de questions. On a commencé des démarches pour avoir des gens. En fait, j'aimerais bien avoir quelqu'un de très différent de Pierre Richard. J'aimerais bien avoir un rappeur américain.
Là, on sort de la connotation française.
Ouais, là, pour le coup, je pense pour le deuxième, il faut un peu ouvrir, aller voir un peu ailleurs. Mais j'aimerais bien faire la démonstration que l'élégance, c'est pas que les jeunes, pas que les vieux, pas que les blancs, pas que les noirs. Enfin voilà, qu'elle est partout. J'aimerais bien ça, mais je connais moins. C'est pas facile les Américains. J'aimerais bien aussi le premier critère, c'est que ce soit bien, c'est que quelqu'un qui soit généreux. Alors si c'est pour faire un quart d'heure avec à sa proqui dans une pièce d'hôtel, ça m'intéresse pas.
Un homme politique.
J'ai fait des démarches pour faire un grand entretien avec, pour aller voir un homme politique.
Tu nous avais parlé des choses, des jeans de Manuel Valls la dernière fois.
Les jeans de Manuel Valls, c'était très dur. Alors, je veux pas faire une interview style avec Manuel Valls. Non, je suis entré en contact avec un homme politique français qui a pris un peu de recul ces derniers temps, mais qui est le plus chic de tous et qui fait faire des costumes, enfin, qui porte très bien. Et donc, ça serait assez étonnant si on arrive à l'avoir, mais c'est en cours.
C'est pas dangereux d'avoir un homme politique comme ça?
Parce que si, c'est un peu dangereux.
Étiquette, derrière.
Si, c'est un peu dangereux. Surtout lui. Surtout lui, c'est pas Jean-Marie Le Pen, hein. Mais il est de droite. Je pense que pour si on fait lui, pour que l'interview soit réussie, il faudrait qu'on arrive à mélanger le fond et la forme. Il faudrait qu'on parle un peu politique, parle vêtements. Il faudrait qu'on soit pas en surface. Ça m'intéresse parce que je voudrais pas qu'on lise une interview d'un homme politique de celui-ci en se disant ah ouais, ils lui ont quand même servi la soupe en lui parlant vêtements. Je pense qu'il y a un truc habile à faire et qui demande un peu de subtilité et d'intelligence pour qu'on lui dise pas ça, mais qu'on parle quand même de vêtements. Et j'aimerais bien essayer.
C'est un bel exercice de style. Hein.
Ouais, clairement.
À voir, à suivre. Alors, c'est la fin de l'année 2018. C'est Balladur. Mais je l'avais deviné. Hein.
Voilà,
j'allais te demander, mais en off.
Ouais, je préfère. J'aime pas trop le teaser comme ça. Pff, c'est Balladur, et puis s'il veut pas le faire, tant pis pour lui.
C'est la fin de l'année 2018. Qu'est-ce qui t'a marqué sur le plan mode cette année?
Mais j'en sais rien en fait. Qu'est-ce qui m'a marqué sur le plan mode? Dans les défilés ou rien. La discussion autour de Slimane est quand même intéressante parce que c'est une discussion autour de la création finalement, plus qu'autour de la mode. Est-ce qu'on peut refaire sans arrêt ce qu'on fait?
Changeant de maison.
Ouais. Est-ce qu'on tourne en rond ou est-ce que finalement on est un artiste quand on refait sans arrêt la même chose? Est-ce que c'est pas ça être un artiste? Ça peut m'intéresser.
Et pour toi, c'est un artiste, Slimane?
J'ai pas la réponse. Je pense que c'est compliqué d'arriver dans une maison et de tout changer. Je pense que pour les clientes, c'est compliqué. Il y a une forme de manque de respect. Et en même temps, je comprends tout à fait la démarche. On reproche pas à des impressionnistes de faire des tableaux impressionnistes, quoi. Eddie Slimane, il a une ligne, il a un...
Mais pourquoi il crée pas sa propre marque?
Voilà, c'est la question. Moi, si, disons que si j'avais été patron de Céline, j'aurais peut-être pas forcément pris Slimane en sachant très bien qu'il allait effacer tout ce qu'il y avait, tout le patrimoine. Et en même temps, je reproche pas à Eddie Slimane de faire ce qu'il sait faire.
Mmh. Mais de là à faire effacer le compte Instagram pour enlever toute trace de Phoebe Philo,
c'est un peu le petit jeu de la mode. Il a ses névroses lui aussi, je crois.
Tu crois que c'est pas aussi une volonté de créer du buzz?
Peut-être.
Moi,
je connais pas. Enfin, c'est pas une matière que je connais assez pour pouvoir émettre des jugements. Peut-être. Enfin, c'est sûr que les marques de mode veulent créer du buzz, hein, de façon générale. Non, mais qu'est-ce qui m'a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est très personnel, mais c'est cette rencontre avec ce groupe de mecs avec qui on a fait l'étiquette, quoi. C'est tout con, mais c'est
comment c'est né cette...
En fait, moi, c'est un truc auquel je pense depuis un petit moment, sans savoir quelle forme ça devait prendre. Mmh. Et puis, je me suis dit peut-être une fois ou deux par an, comme ça, un guide assez froid qui rejette un peu les dictats de la surconsommation. Et puis j'en ai parlé à Sopress en interne, et puis j'en ai parlé aussi avec Gauthier Borsarello qui a joué un rôle important, parce que c'est une vraie énergie, une force, une vraie connaissance. Et puis comme ça, on a aggloméré plein de gens, des savoirs, des graphistes, des gens à la pub, un styliste, des maquettistes, enfin des énergies où au final, quasi, on s'est tombé dans les bras tous à la fin. Alors c'est tout con, hein, mais... Ça a l'air un peu ridicule quand on fait c'est qu'un magazine, quoi. Mais à un moment donné, moi, je dormais plus beaucoup, quoi. Du coup, j'étais assez fatigué et assez content que ça marche, quoi.
C'est un magazine qu'on garde.
Ouais, je crois que c'est un magazine qu'on garde. Et en le faisant, je me suis dit quand même, un petit peu, modestement, ça raconte un truc sur la masculinité en 2018, quoi. Et tous les mecs parlent de leur père, tous les mecs parlent de leur enfant, de la transmission. Et quand on parle de patine, on parle un peu de sa vie, quoi. Un jean patiné, il est patiné par la façon dont on vit. Il est patiné par la façon dont on s'assoit, du sport qu'on fait dedans, enfin de l'activité qu'on fait avec. Et finalement, parler de fringues chez les hommes, mais peut-être aussi chez les femmes, sans doute aussi chez les femmes, c'est un peu se confier. Il y a un côté un peu psychanalytique. Et quand je parle de névrose, c'est pas innocent. Enfin, c'est dans le magazine, il y a un petit côté comme ça, je crois. Et je suis content que. Mais on a eu énormément de retours.
Et
mais...
tu te sens moins seul aussi.
Ouais, mais j'ai eu. Et si vous saviez le nombre de retours de gens qu'on a eu à tous les niveaux. Moi, c'était mon objectif. C'était que les gens très pointus dans le vêtement s'y reconnaissent. Et ça, ça a marché. Et un mec au bureau à Sopress qui n'a rien à foutre le lise et m'en parle. Et ça a marché, ce truc-là. Et franchement, c'est super de faire un truc, de le penser et qu'au final, ça marche un peu. C'est cool.
Tu parlais de la masculinité en 2018. Qu'est-ce que tu penses de la place de l'homme en 2018 dans notre société ?
Voilà, elle est encore trop importante, j'imagine. Je pense qu'il y a plein de trucs. On est dans une phase... je pense qu'on doit déconstruire un modèle de société patriarcale, que ça va prendre du temps, qu'on est dans une phase difficile de transition, de frottement, mais où finalement, une forme de raideur... d'intransigeance sur certains comportements masculins et vital, et qu'on passera à une phase d'apaisement dans un second temps, mais que là, pendant quelques années, pendant quelques décennies peut-être, on se doit d'être hyper vigilant, peut-être assez raide même sur le jugement face à certains comportements, la dénonciation de certains comportements, pour passer dans un second temps dans une phase beaucoup plus apaisée de rapport homme-femme, j'espère. Mais ouais, faut qu'on déconstruise un truc, faut qu'on déconstruise des réflexes. Mais moi le premier, sans doute, je m'inscris là-dedans, évidemment. Et c'est un truc, par exemple, il y a dans l'étiquette, il y a un truc auquel je tenais, c'est que ressorte du magazine une masculinité un peu généreuse et non toxique, quoi. C'était un truc hyper important.
Et douce.
Par exemple, c'est dommage parce qu'il y a une photo dans les gars du début, il y avait une photo d'un père et son fils. Et ça matchait pas trop en maquette, mais je voulais la mettre absolument. À la fin, on a une liste des choses qu'on veut cette année et des choses qu'on ne veut pas. Et il y a un truc auquel je tenais, c'est qu'on a mis qu'on ne veut pas Philippe Lain et son esthétique de misogyne beauf. Et je pense qu'il y a peu de magazines de mode qui peuvent permettre de se couper d'un annonceur potentiel sur le premier numéro. Alors, c'est pas punk et c'est pas non plus complètement dingue. Mais enfin, je trouvais ça important de dire un peu que ce que fait ce garçon, Philippe Lain, par exemple, me parle pas et même d'une certaine façon m'énerve, que faire défiler des meufs à moitié à poil pour exciter des consommateurs masculins, c'est quand même assez condamnable. Et je tenais important qu'on le dise. Je tenais important que le magazine ait 2-3 messages politiques. Qu'on dise que, par exemple, moi, quand l'Élysée vend un sweat sur lequel c'est marqué français, ça me gêne. Voilà, peut-être que ça gêne pas tout le monde. Moi, ça me gêne. Et je trouve ça important qu'un magazine, même un magazine de mode, soit dans son temps, soit dans la politique, potentiellement, soit capable de dire des choses. Et je pense que c'est hyper important.
Comme c'est le dernier épisode de l'année, j'ai demandé aux auditrices de Chiffon de te poser leurs questions. Alors, il y en a eu beaucoup.
Mais c'est vrai.
J'en ai eu plus d'une centaine.
Ah ouais.
J'en ai sélectionné 12.
D'accord.
Un peu au hasard. Elles sont en vrac et de tout genre.
Ok.
C'est parti. Okay. Delphine, DL, 14 ans, 42 ans, pardon.
D'accord.
L'homme le mieux habillé en 2018, selon toi ?
Méconnu Nicolas Gabart qui fait des costumes Husbands, connu Brian Ferry, allez, mais c'est de tout temps quoi.
De tout temps, lui, ouais, c'est intemporel. Et le pire ?
Le pire. L'autre jour, il y avait Kev Adams à l'émission, il était à la fois très con et très mal habillé.
On le verra pas dans le prochain numéro de l'étiquette.
Non.
Tubercule 8 me demande.
Ah oui.
Ah oui, j'ai d'accord, les pseudos. Ouais,
Mais c'est un vrai nom ?
Non, c'est un pseudo, je pense.
D'accord, okay.
Collant légèrement filé, est-ce vraiment le drame ?
Non. Alors, je j'ai pas d'expertise, enfin, au sens où j'en ai jamais porté, mais quand je le vois sur quelqu'un, je ne me dis pas que c'est un drame, je me dis que la personne vit dans son collant et que...
Ça ne te choque pas, en fait.
Ça ne me choque pas.
Et elle me pose une autre question. Pourriez-vous nous donner des petites leçons comme vous le faites pour les garçons ? Ça rejoint
non,
ce qu'on a dit tout à l'heure.
Non, je ne pourrais pas. Mais on peut faire en sorte de trouver des solutions pour que quelqu'un le fasse pour nous, avec nous. On va essayer.
Alors, Kathleen, à quand une version féminine de l'étiquette ? Ça, on a répondu.
Sous peu, peut-être. Enfin, bientôt, peut-être, un jour.
Natacha, Chacha, Good Life, 43 ans. Mocassin à gland. Et pull couleur pêche sur les épaules, même combat, marque.
Non. Alors, Oui et non. Le mocassin à gland, moi je suis pour. Je comprends que ça puisse heurter, mais je suis très pour. Et je refuse un peu cette doctrine du mocassin à gland comme icône
de droite.
Icône de droite. Ouais. C'est un truc américain. C'est dans un débat entre Reagan et Père Bush. C'est Reagan qui avait traité le Père Bush de youpi à mocassin à gland. voilà, c'est comme ça. C'est depuis ce temps-là que c'est devenu une icône de droite. Une icône de droite. Le pull sur les épaules. Avec deux trois potes, on a quand même une tentation d'y revenir. Je vous préviens, pour 2019, peut-être que je
c'est très connoté manif anti-mariage pour tout
ouais,
ça.
Ouais, c'est le problème. Moi, j'aime bien déconstruire ces trucs-là, déconstruire parce que je pense que la droite dans le vêtement n'est pas à l'endroit où on pense.
Natacha nous dit pull couleur pêche. Hein,
sur ouais, les pêche épaules, par pas... contre, c'est dur. Non, pêche, peut-être pas pêche. Allez.
Sophie Février te demande quelles sont les tendances pour la rue, traduire nous, pour 2019.
Je pense l'aisance. Je pense qu'il n'y a pas d'élégance sans aisance. N'oublions jamais ça. Et qu'on a, on a eu tendance à nous mettre dans des carcans, dans des armures, dans des choses un peu dures, mais qui ont un sens, qui peuvent avoir une utilité. Mais enfin, je crois plutôt à une forme de fluidité qui va se propager là. C'est une mode à temps long.
Je crois que les gens vont s'assumer un peu plus.
Ouais, je crois.
Consommer un peu moins aussi.
Consommer un peu moins, ouais, sur les modes de consommation, je pense qu'effectivement, on va comprendre que vivre est polluant intrinsèquement, alors n'en rajoutons pas, ne surconsommons pas. Consommons mieux, mais c'est-à-dire moins. Mais de meilleure qualité et portez vos vêtements en fait un truc achetez des vêtements et portez-les, usez-les, les vêtements sont plus beaux quand ils sont portés en général.
Maud me demande si tu as besoin de pigiste ou d'une illustratrice bébé requin gentil. Bon.
Pourquoi pas, on a toujours besoin de talent.
Elle a 22 ans hein. Ouais. Plus sérieusement me dit-elle, ta définition du masculin dans la mode et la société d'aujourd'hui.
C'est extrêmement difficile. Je ne sais pas si je suis capable de définir ça. C'est très difficile. Je serais plus à l'aise à dire ce que ne doit pas être la masculinité. Dominante, écrasante, toxique, vantarde, surpuissante. Elle est tout le reste, finalement, pour moi, la masculinité.
Julie, la clique de Brune, 42 ans, vous ne revenez jamais sur votre avis en matière de mode ou votre avis évolue-t-il au fil des tendances ?
Si, mon avis évolue.
Oui, on l'a vu.
Je reviens sur des choses, je pense que je reviens sur des choses, sur des jugements, sur des règles. Je peux me dédire, je peux me tromper et ça doit m'arriver même souvent.
Et parfois tu dis, oh là là, mon Dieu, mais comment j'ai pu m'habiller comme ça ?
Ah bah oui, bien sûr. C'est terrible de se regarder, de repenser ou de regarder des images anciennes, c'est terrible, ouais.
Justine, elle, de Lyon, 22 ans. Je ne sais pas comment m'habiller pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, un conseil.
Rien qui ne brille. Pas de paillettes dans les cheveux, pas de bijoux de cheveux, pas trop de noir.
De bijoux de cheveux, c'est joli ça, comme
ouais,
expression.
Il y a des trucs, il y a des bijoux de cheveux, ça existe, j'en ai vu. Pas de gel pour les hommes, pour les femmes ça va. Et faites un effort, mais ne vous déguisez pas. Enfin, c'est des trucs tout cons, mais...
Marie de Saint-Brieuc, est-ce qu'à 70 ans, vous continuerez à vous habiller vieux ?
Ouais, par nature, ouais, ce serait dommage de s'habiller jeune alors qu'on s'est habillé vieux toute sa vie. Je rêve d'avoir 70 ans. J'ai hâte d'avoir 70 ans. J'ai hâte de pouvoir m'habiller comme
le
prince Charles.
Ah !
Et je pense que...
C'est ton icône mode ?
Ouais, ça fait partie des icônes, évidemment. Regardez les vêtements, essayez de regarder les vêtements du prince Charles, les vêtements usés du prince Charles. C'est extraordinaire. Il y a des trucs qui sont en lambeaux, qui sont raccommodés. Ça, c'est, je trouve ça. Je pense que l'élégance, c'est un art qu'on maîtrise quand on est vieux et qu'on a commencé tôt. Et donc, j'ai hâte d'être vieux.
Françoise du Sud, 54 ans. Pourquoi cette obsession du Shetland ?
Parce que le Shetland, il y a une forme de confort intrinsèque visuel avec le Shetland, c'est-à-dire qu'au-delà du fait de le porter, c'est sans doute même moins confortable au porter que le cachemire,
fait,
ça pique un peu, ça peut être un peu raide. Le Shetland dit un truc Très rassurant, très douillet. C'est, on n'est pas loin du mohair dans l'esthétique. Et c'est ça qui m'attire chez le Shetland. Et sur les pulls Shetland, quand ils sont bien faits, quand ils viennent d'Écosse, qu'ils sont faits comme il se doit, il y a un truc très précis au niveau du col. La trame du col, le bord-côte, est un peu plus, elle est assez large, assez généreux et tient. Et j'adore ça. C'est un détail. Le bord-côte des Shetland au niveau du col est vraiment super.
Solveig, 18 ans. Votre rêve, là, tout de suite, maintenant.
À partir en vacances avec toute ma famille.
Marine de Reims. À quand un selfie de Marc devant le rayon costume chez H&M ?
Voilà. Il faudrait que je perde un pari. Hein. Il faudrait que... Non, c'est... Alors, c'est... on peut mettre en scène, mais c'est... Si je dois y aller naturellement et acheter, à mon avis, c'est pas pour tout de suite.
Et ma question, que te souhaiter pour 2019 ?
Oh, j'ai déjà plein de trucs, hein, non, d'être heureux, de continuer, la santé, les enfants, enfin c'est tout con, un beau costume d'été,
pour être... quand même
très, ouais, quand même, n'exagérons rien. Non, j'ai un projet sur une matière, une laine un peu froide, kaki, beige.
Pour l'été ?
Pour l'été, ouais. Du coup, j'ai jamais osé le costume de couleur très claire, enfin j'ai jamais vraiment fait faire le truc sérieusement. Du coup, je vais tenter ça pour mon grand projet de 2019.
Je croyais que tu allais nous annoncer une émission, un livre, non, un costume.
Ah si, il va y avoir des émissions, je ne sais pas, un livre peut-être. Il y aura des projets, mais ça, bon, la vie professionnelle suit son cours. Mais non, n'oublions pas l'essentiel, le costume.
Merci infiniment, Marc.
Merci à vous.
Je te souhaite le meilleur, de très belles fêtes ainsi qu'à tes proches. Et voilà, Chiffon version 2018, c'est fini. Un grand merci pour votre écoute et votre fidélité toujours aussi croissante. Je vous dis à l'année prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues. Passez de belles fêtes de fin d'année et portez-vous bien.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.